Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
À 19h18 sur RTL, on refait le monde ce soir avec le grand reporter au Figaro, Guillaume Perrault. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Avec Valérie Lecap, conseillère en communication. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Marco.
Le politologue, directeur du centre d'études et d'analyse Roland Kayrol. Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Et Alain Duhamel nous a rejoint. Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
Et bravo pour vos scores de radio à 18h30. Mmh. Votre quart d'heure explose carrément. Bravo Alain.
Non, mais c'est, et merci. C'est le tandem.
Voilà. Voilà. Et comme vous parlez beaucoup plus que moi dans ce quart d'heure-là...
Dans un tandem, il y en a toujours un qui pédale plus que l'autre.
Allez, la FNAC, agitateur de syndicats, l'enseigne culturelle a trouvé un accord sur le travail du dimanche en échange de plusieurs contreparties, notamment le triplement des salaires, le volontariat renouvelé, la prise en charge des frais de taxi, même de certains frais de garde. Si la CFDT, la CFTC et la CGC, qui représentent 30% des salariés, sont pour, la CGT, donc Force ouvrière et Sud, le rejette. Alors ce soir... Vous comprenez cette opposition, vous dénoncez une position dogmatique. Les syndicats représentent-ils encore les salariés? Vous avez entendu Jean-Marie Le Guen dénoncer les syndicats tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Benoît Galeret de LCI, bonsoir.
Bonsoir. On entend deux airs très différents. D'un côté, ceux qui sont consternés, comme Barbara, qui lâche « Ne vous plaignez plus du chômage alors. Si des enseignes veulent ouvrir le dimanche, je vois pas en quoi ça dérange. » De l'autre côté, André qui dit « Encore heureux qu'ils aient refusé. Il est évident que les salariés n'auront pas le choix. » Jean-Michel traite les syndicats français de premiers destructeurs de l'emploi en France. Et liberté de renchérir les fossoyeurs de la France. Londres n'a pas de soucis à se faire, les touristes iront chez eux faire leur shopping le dimanche. Gladys leur rétorque, non mais franchement, on peut se passer des magasins ouverts le dimanche, faut pas déconner. Oui, on va pas passer à l'esclavage salarial pour faire plaisir aux fainéants du MEDEF et aux bobos parisiens, confirme Bourdon. Jacques en veut même à la CFDT, CFTC et CGC d'avoir accepté. Trois syndicats de frime, dit-il, toujours les mêmes qui valident la régression sociale. Rémi les défend, au contraire, les trouve pragmatiques, contrairement aux autres qui enterrent la FNAC. Stéphane conclut en riant. En tout cas, il va y avoir moins de FNAC ouvertes le dimanche après la loi Macron qu'avant. La réforme, ça pique un peu.
Roland Kayrol, donc la position de la CGT, défendue tout à l'heure donc, par les délégués CGT qui étaient à notre micro, vous la comprenez ou vous la dénoncez?
Écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette position de la CGT. J'étais pas un fanatique de l'ouverture du dimanche généralisée, mais j'avais toujours dit que dans les fameuses zones touristiques, et notamment à Paris, ça me paraissait assez légitime, à condition que les contreparties données aux salariés soient importantes. Et là, j'ai lu et relu le texte de l'accord prévu, vous les avez résumés, mais surtout des choses sur lesquelles on avait des doutes possibles, sur le volontariat, sur la possibilité de revenir en arrière par rapport à sa décision, sur le fait que les frais de taxi seraient remboursés, et même pour la majeure partie, les frais de garde. Tout ça s'ajoute à une augmentation de salaire extrêmement importante. Je trouve que là, franchement, c'est pousser le bouchon un peu loin. C'est vrai que si des accords comme ça étaient signés, celui-là ne le sera donc, sera signé, mais ne pourra pas être appliqué. Ben, je trouve que dans des cas comme ça, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des salariés qui jouent le jeu de ce qui est quand même une modernisation du pays, qui s'adapte quand même au mode de vie de la société occidentale, y compris de la nôtre. Donc oui, là, malgré les réticences que j'ai pour une ouverture généralisée du dimanche, dans le cas précis de la FNAC, dans les zones dites touristiques, je trouve tout à fait regrettable qu'on ne puisse pas voir cet accord marcher.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Roland. D'abord, à cause d'un mot qu'il vient d'utiliser en disant que c'était les salariés qui refusaient. Non, ce n'était pas les salariés, c'est un apparatchik d'un syndicat. Ce n'est pas les salariés.
Non,
je suis persuadé. Je suis persuadé que si on faisait voter les salariés de la FNAC, une forte majorité serait d'accord.
Ça, je le crois aussi.
Alors, sur le fond, je ne suis pas d'accord non plus parce que je trouve que c'est tout à fait cohérent de la part de la CGT. La CGT rêve d'être en 1904.
Raison de plus, Alain, pour pouvoir ne pas être d'accord.
Puis-je continuer?
Mais allons-y.
La CGT rêve d'être en 1981. Sa grande idée, c'est qu'il faut reproduire l'économie française telle qu'elle était, qu'il faut du dirigisme, qu'il faut de la planification, qu'il faut des nationalisations, qu'il faut des mesures sociales, même si c'est très bien à l'expérience que ça a entraîné des catastrophes économiques. La CGT aujourd'hui, c'est un gardien de musée, social. Qui rêve d'une France qui n'aurait pas bougé en un demi-siècle.
Mais qui est majoritaire à la FNAC.
Non, elle n'est pas majoritaire elle seule. Elle est majoritaire avec Sud et Solidaire.
Oui, d'accord.
Mais ils sont très majoritaires.
Mais alors, je vais vous faire un pari. C'est très dangereux, les paris, mais en général, tout le monde a oublié au moment où on peut vérifier.
Heureusement, je serai là pour vous les rappeler.
Je vais faire un pari. Je pense qu'aux prochaines élections professionnelles qui auront lieu à la FNAC, la CGT va reculer et reculer largement.
Valérie.
Ce qu'il faut rajouter à ça, c'est cette espèce d'alliance absolument hallucinante et contre nature entre la CGT et FO, parce que c'est ça qui s'est passé. Et c'est la même chose qui s'était passée en 1995, au moment où Alain Juppé avait essayé de faire passer la réforme sur la sécurité sociale qui a mené au blocage du pays, dont on se souvient. Et c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure en coulisses. Qu'est-ce qui se passe ? La CGT et FO sont les deux syndicats conservateurs de ce pays. Ce sont les deux syndicats qui, depuis des décennies et des décennies, empêchent ce pays d'avancer, empêchent ce pays de se réformer et sont en train de le mettre à terre. Parce que c'est vrai ce que disait Roland tout à l'heure, il y avait une augmentation de 200% du salaire des gens qui voulaient aller travailler, qui acceptaient d'aller travailler le dimanche. 200% en ce moment, vous rendez compte.
Là, c'est même 300%. Hein.
Pour certains dimanches.
Enfin, c'était 200%
dimanche. Mais là, c'est 300%.
Et comment est-ce qu'on peut refuser à des gens qui, en ce moment, pleurent sur leur pouvoir d'achat, sur un pouvoir d'achat qui est bloqué?
Alors, le monsieur de la CGT qui est parti, mais qui nous expliquait tout à l'heure, c'est pour le bien des salariés,
mais
pour leur santé.
Mais c'est un scandale. C'est un scandale, Marc-Olivier, parce que après, on pourra discuter de savoir si tous les dimanches, on doit aller à la FNAC, à la messe ou ailleurs, j'en sais rien. C'est un autre sujet.
L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre.
En même temps, si.
Surtout quand c'est à côté, mais bon. Mais sur le fond, ce qu'ils viennent de faire aux salariés de l'entreprise, c'est absolument... Moi, je trouve ça vraiment désespérant pour ce pays.
Emmanuel Perrault.
Guillaume, pardon,
Emmanuel Perrault.
Je vous en prie.
Il est ému par la CGT.
Non, Emmanuel Perrault, c'est le directeur des programmes de France Inter.
Et
c'est
pas normal. Force ouvrière, c'est pas normal, franchement.
L'accord. Pardon, Guillaume.
Je vous en prie, Marc-Olivier. L'accord qui était envisagé à la FNAC me paraissait tout à fait raisonnable, pondéré. Pourquoi il y a beaucoup de salariés qui sont malgré tout inquiets de la perspective d'une ouverture plus facile de le dimanche de certains magasins, c'est qu'ils ont peur d'être contraints de travailler malgré, contre leur gré. C'est ça le cœur du problème. C'est comment garantir aux salariés qui ne veulent pas travailler, ce qui est le dimanche, et c'est un choix tout à fait respectable, comment garantir qu'ils ne soient pas forcés malgré eux. C'est toute la difficulté du sujet. C'est pour ça qu'on le traîne depuis des années. Sarkozy avait essayé de libéraliser tout ça. Une partie de ses propres députés étaient très hostiles et finalement, ça n'avait pas changé grand-chose à l'époque. J'observe que la CFTC, qui ne peut pas être soupçonnée de vouloir brader le repos dominical, non plus que moi, eh bien, avait signé l'accord. Donc ça, pour moi, c'était une garantie.
Vous travaillez le dimanche.
Je travaille
à la messe le samedi.
Absolument. Certes.
Et vous travaillez
et au temple aussi.
Vous qui êtes au Figaro, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça fait des années.
Non, mais oui, d'accord. Mais je pense aussi aux gens qui n'ont pas nécessairement envie de le faire, et je ne veux pas les obliger à travailler le dimanche sous prétexte que moi, comme consommateur, ça me plaît de faire mes courses le dimanche. J'essaie d'avoir de l'empathie pour le point de vue du salarié qui a pas envie de travailler le dimanche, qui est un point de vue que je respecte. Cela dit, il y a une arme très simple pour trancher dans ce genre de situation, ça serait un référendum d'entreprise qui aurait une valeur non seulement consultative comme aujourd'hui, avec un droit d'opposition des syndicats, mais qui aurait une valeur décisionnaire.
Mais
pour
il va
moi,
avoir lieu,
ça serait. Oui, mais il sera consultatif.
Non, pas à la FNAC.
Combien même il aurait lieu, les syndicats peuvent s'opposer à son résultat. Oui. Ça n'a une valeur consultative. Et c'est ça qui change tout. Voilà.
Mais il n'y aura pas de référendum à la FNAC. Bon, on est tous d'accord.
Ajoutons quand même une des conditions de l'accord.
Vous observez que celui qui est le plus bienveillant avec les gens qui sont réservés, c'est moi.
J'ai bien noté, Guillaume Perrault.
Une des
conditions de l'accord dont on n'a pas parlé.
C'est aussi
le fait qu'il y avait dans l'accord l'idée que pour tous les salariés à temps complet, en tout cas, on leur garantissait qu'ils auraient 2 jours consécutifs de repos.
Et une prise en charge pour les frais de garde des enfants.
Vraiment, c'est aussi une objection très importante qui était faite à l'idée du travail. Du dimanche et qui sautait là aussi.
Allez, dans un instant, prolonger ou pas l'état d'urgence, on en débat.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Et à 18h30, on refait le monde ce soir avec Valérie Lecabre, Roland Quayrol, Guillaume Perrault et Alain Duhamel. Guillaume Perrault, je l'ai bien dit. Date de péremption, 26 février, l'état d'urgence mis en place après les attentats du 13 novembre, va-t-il se poursuivre ou pas? Tout à l'heure, donc Claude Barthelone rapportait les propos de François Hollande, expliquant que la prolongation est tout à fait probable. La Ligue des droits de l'homme, de son côté, vient de saisir le Conseil d'État pour mettre fin à cette situation qui, selon elle, n'est plus justifiée et porte une atteinte grave et manifeste aux libertés publiques. Alors, l'état d'urgence, stop ou encore, comme dirait l'autre, sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret ?
Ben, y a ceux qui y voient un bouclier indispensable et ceux qui dénoncent un prétexte pour nous fliquer sans limite. Les Français sont favorables à l'état d'urgence. Il y a eu assez de morts, assure gravement Corinna. Et quand la LDH demande en effet sur son compte Twitter au Conseil d'État de suspendre tout ou partie de l'état d'urgence, haute panique. Mais vous êtes des grands malades, vous voulez quoi ? Qu'on se fasse tous assassiner ? Ces barbares sont pas des hommes. Marc dit au contraire qu'il en a marre d'entendre « Imaginez qu'on prolonge pas et qu'un attentat nous frappe deux semaines plus tard. » C'est un argument illimité dans le temps, soupire-t-il. Rubin est plus alarmant encore. Ainsi meurent les démocraties. Soit la volonté de Hollande de prolonger provoque une levée de boucliers, soit la République est morte et enterrée. Je rappelle que sous l'état d'urgence, la séparation des pouvoirs est suspendue et les manifestations politiques interdites. Ça rappelle les pays du Maghreb qui sont en état d'urgence depuis 30 piges, écrit Raphaël. Et ça n'apporte pas plus de sécurité, estime Laurent. Voigt, pour finir, trouverait plus simple qu'on revienne à l'état de droit, quitte à le renforcer avec de vrais moyens si besoin.
Alain Duhamel, donc cet état d'urgence, est-ce qu'il y a une nécessité à le prolonger après ce 26 février ou alors vous, vous partagez l'avis de la Ligue des droits de l'homme qui dénonce donc,
écoutez, la situation. Il y a deux aspects. Il y a un aspect technique. On l'interrompt, ce qui est tout à fait imaginable, toutes les mesures qui ont été prises tombent. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on prend une responsabilité qui est que non seulement il n'y a plus de perquisition, par exemple, mais que les assignations
à résidence... Il y a plus de perquisition, si, il y a des perquisitions, mais dans ces conditions-là. Oui,
dans les conditions de l'état d'urgence, ne jouons pas sur les mots.
Ah bah quand même, oui.
C'est important.
Bah c'est important, il y a des perquisitions quand même.
Plus de perquisitions administratives.
Non mais on parlait de l'état d'urgence, on est d'accord. Bon, alors, donc, il y a un certain nombre de choses qui tomberaient, et par exemple, les assignations à résidence tomberaient, toutes les assignations à résidence. Bon, alors, derrière ça, il y a évidemment deux problèmes politiques. Le premier, c'est peut-on prendre aujourd'hui, alors que l'État islamique est encore puissant et a certainement des relais en Europe, peut-on prendre la responsabilité d'accepter des risques ? C'est pas que l'état d'urgence annihile les risques, mais c'est qu'il est fait pour les combattre, en tout cas. Bon, est-ce que c'est quelque chose de possible ? Et en particulier à ce moment-là, ceux qui sont partisans de lever l'état d'urgence, si jamais quelque chose se passe la semaine d'après, on est embarqué à ce moment-là dans une polémique qui durera des années.
Donc clairement, Alain, parce que vous avez bien posé la problématique...
Non, parce qu'il y avait aussi une autre dimension politique qui est que derrière ça, il y a aussi un peu une hypocrisie générale qui est qu'on parle de... poursuivre ou ne pas poursuivre l'état d'urgence, mais en réalité, tout ça est lié à la discussion et à la polémique sur la réforme de la Constitution.
Une fois que vous avez dit tout ça, votre position, clairement, c'est oui, il faut prolonger.
Ma position, je suis pas un fanatique de l'état d'urgence parce que je suis pas un fanatique des limitations aux droits individuels. Bon, mais je sais très bien que si on lève l'état d'urgence, le jour où on l'annonce, le lendemain, on a droit à une campagne massive sur le thème. Non seulement ils ne sont pas capables de nous protéger, mais en plus, ils ne prennent même plus de précautions.
Moi, je suis d'accord avec les préliminaires du professeur Duhamel, mais en désaccord avec sa conclusion.
Ça fait partie des droits de l'homme.
Merci. Merci
pour le moment. Pour le moment.
Oui. Je parle sous la surveillance de Bernard Cazeneuve. Moi, je crois que c'est très important, envers et contre tout, et y compris dans ces périodes, de maintenir les règles de la République, de la démocratie et notre état de droit. J'ai déjà dit ici que j'étais hostile déjà à la prolongation précédente de l'état d'urgence. Donc je ne vais pas tout à coup changer d'avis et je me réjouis que la Ligue des droits de l'homme soit de mon côté. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de saisir le Conseil d'État, parce que voilà, nous sommes quand même l'un des rares pays au monde, le seul grand pays au monde où l'État a une justice pour lui, grâce à Napoléon Ier, et personne n'a voulu supprimer ça. Bon, elle saisit le Conseil d'État, c'est toujours symbolique, je pense que ça sera dur d'avoir raison devant le Conseil d'État là-dessus. Mais je crois que c'est très important, d'abord de savoir que ça fait longtemps, plus d'un mois, que l'état d'urgence n'a servi à rien. Regardez les statistiques du ministère de l'Intérieur, regardez ce qui est publié par Jean-Jacques Urvoas pour la commission des lois sur le site internet de l'Assemblée nationale. Il ne se passe, malgré ces maintiens des perquisitions de nuit sans autorisation du juge, malgré ces assignations à résidence, on assigne des gens qui n'ont aucun rapport et on le sait avec le terrorisme. On a assigné des militants écologistes pour qu'ils ne sortent pas dans les rues pendant la COP21. On marche sur la tête. Eh bien, malgré tout cela, on sait que ça ne sert à rien. Mmh. Une mise en examen pour éventuelle participation à quelque chose de nature terroriste et 3 enquêtes judiciaires. Donc, c'est rien du tout. Prolonger, c'est juste, comme dit l'avocat des droits de l'homme, une prolongation de confort. C'est un confort pour le gouvernement, pour faire croire à l'opinion publique qu'on s'intéresse à eux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le problème n'est pas là, c'est que ça ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. Ça n'a servi à rien.
C'est une très belle plaidoirie, mais...
Alors, attendez, Valérie et puis Guillaume.
Roland, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça a au moins un effet dissuasif. C'est-à-dire que les gens ont quand même l'impression qu'ils sont sous haute protection de la population française, et c'est quand même l'essentiel. De protection.
Symbolique, donc pas dissuasif.
Dissuasif vis-à-vis des terroristes et de protection, de sentiment de protection. C'est vachement important, je suis désolée.
Ah, mais c'est un scandale mettre le confort d'opinion avant les libertés publiques.
Non, mais de quelle liberté publique parle-t-on? Est-ce qu'on vous a empêché de faire quoi que ce soit depuis qu'il y a l'état d'urgence?
Parce qu'on ne m'a pas empêché, moi, on a empêché des tas de gens qui n'avaient aucun rapport avec cette
souffrance. Si vous voulez, je suis pour la protection. Pour la protection.
Le nombre de violations de domicile.
Messieurs, quand vous parlez.
Messieurs, quand vous parlez, on vous écoute.
Mais
enfin, des gens qui ouvraient leurs portes et à qui on a quand même enfoncé la porte.
Messieurs, quand vous parlez, on vous écoute. Donc écoutez les autres 2 secondes.
Allez-y.
Je ne sais même plus ce que je voulais dire, finalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je ne trouve pas ça extrêmement dérangeant, sincèrement. Je suis même étonnée que ça le soit aussi peu dérangeant.
Non, mais renseignez-vous.
Mais
elle est très renseignée.
Non, mais franchement...
Vous avez vu le nombre de gens qui ont dû aller pointer 4 fois au commissariat à 2h30 de distance de chez eux.
Non, mais deuxièmement, si ça peut mettre...
C'est ce qu'on appelle une assignation à résidence.
Un petit peu d'organisation dans les choses.
Alors que les gens, je ne vous dis pas que c'est bien.
Que les gens n'ont pas été inquiétés, qu'on n'a rien trouvé sur eux.
Je ne vous dis pas que c'est bien.
Et on va continuer. Ah, ça y
est, vous savez bien que les perquisitions ont aussi... Alors, je pense que l'état d'urgence est un rendement décroissant. L'état d'urgence a un rendement décroissant.
Si vous l'enlevez, qu'est-ce qui se
vous
passe?
Avez quand même, il serait tout à fait injuste de dire que ça n'a servi à rien, c'est pas exact. Il y a eu des armes de guerre qui ont été saisies, il y a eu
comme
des Kalachnikov. Vous avez eu, vous avez. Et par ailleurs, Roland, je vous en prie, Roland.
Allez-y.
Écoutez, vous savez bien par ailleurs, contre le terrorisme et la grande criminalité, il peut y avoir des liens. Il n'y a pas de frontière étanche avec d'un côté des groupes terroristes et puis de l'autre de la grande criminalité. Donc on ne peut pas dire.
Notamment pour l'achat des armes.
Voilà, notamment pour l'achat des armes. Donc on ne peut pas dire que parce que la majorité des gens assignés à résidence relèvent du grand banditisme, ça a été un abus de pouvoir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il peut y avoir de la porosité, c'est assez traditionnel quand on s'intéresse à ces dossiers de terrorisme, de voir des gens qui basculent du grand gangstérisme, du grand banditisme au terrorisme.
Ça c'est ma première remarque. Des gens du grand banditisme.
Et puis par ailleurs, j'ai entendu un internaute dire c'est la fin de la séparation des pouvoirs. C'est tout à fait faux. Il y a toujours un contrôle du Conseil d'État. Du corps judiciaire, et pour le moment, on va tout de même.
On va reprendre le débat si vous voulez bien dans un instant.
Il faut bien, et en effet.
On va reprendre le débat dans un instant. Et
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier.
Et on reprend notre débat sur l'état d'urgence, prolongé donc ou pas, avec Valérie Lecabre, Roland Cayrol, Guillaume Perrault, Alain Duhamel à 19h40 sur RTL. Et donc, Roland Cayrol, vous pointiez les défaillances du Conseil d'État. Pourquoi ?
Oh non, ça c'est un problème de principe. Dans tous les grands pays démocratiques du monde, c'est les mêmes juges qui jugent l'État et les citoyens. En France, depuis Napoléon Ier, non. L'État a droit à sa justice à lui. C'est les tribunaux administratifs et le Conseil d'État. Moi, je trouve que d'un point de vue d'un principe démocratique, ça ne va pas. Deuxièmement, je sors un tout petit peu, je reviens au sujet. Moi, j'ai une grande admiration pour le Premier ministre de Norvège qui, le lendemain des attentats terroristes de 2011, dont vous vous souvenez tous, a dit « On ne changera aucun article de loi, on ne prendra aucune mesure d'exception. La démocratie doit combattre le terrorisme par l'instrument de la démocratie et du droit. » Et je trouve que ça, c'est une position juste. Et que s'il s'agit en plus de le prolonger pour la deuxième fois, alors là, on pousse le bouchon.
Ça n'avait pas du tout la même ampleur. Ce qui est arrivé en Norvège n'avait pas du tout...
90 morts d'un coup dans un pays comme la Norvège.
Alain Duhamel, le Conseil d'État.
Et après, on
aura
le
droit, non ? Oui, bien sûr. Allez-y, Alain.
D'abord, en ce qui concerne la Norvège, je me rappelle très bien la déclaration du Premier ministre. Je voudrais pour employer une expression fétiche de Roland Kayrol, observer que l'extrême droite a opéré une montée en flèche en Norvège depuis. Et que je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Mais c'est
quand même pas parce qu'il n'y avait pas d'état d'urgence. C'est quand même pas parce qu'il n'y a pas eu d'état d'urgence.
C'était la réaction du corps électoral norvégien quand on leur a dit, après ce qui vient de se passer, qui était abominable, on ne change rien à rien. Eh bien, les gens n'étaient pas d'accord.
Pas du tout.
Et son conseil d'État.
C'était chronologiquement comme ça.
Le Front National a gagné 4 points aux dernières régionales en France à cause des attentats. Il y avait l'état d'urgence.
Je dis pas ça par rapport à l'état d'urgence.
Sur le Conseil d'État,
par rapport à ce qu'avait dit le Premier ministre norvégien.
La Norvège, c'est un peu loin, sur le Conseil d'État.
Ah, c'est tout près, quand même.
Mais c'est un peu loin.
Bon, d'accord, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne.
Merci.
En ce qui concerne le Conseil d'État, d'abord, le Conseil d'État, et Roland ne pourra pas me dire le contraire, puisqu'il connaît très bien l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État, le Conseil d'État a très souvent été non seulement libéral et attaché aux libertés, mais je dirais même plus libéral, et s'il fallait employer un mot qui n'est pas forcément l'idéal pour une institution judiciaire, plus progressiste que, par exemple, la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation, c'est la justice judiciaire, le Conseil d'État, c'est la justice administrative, et globalement, le Conseil d'État a été plus progressiste que la Cour de cassation. Et par ailleurs, il a démontré 100 fois, alors là non plus, je suis sûr que Roland ne me dira pas le contraire, et son indépendance d'esprit, et la qualité de son travail, ce qui n'est pas toujours le cas des magistrats judiciaires.
Non, il a montré parfois la qualité de son travail sur le plan purement juridictionnel, mais il est par ailleurs le conseiller permanent de l'État, qu'il donne des avis.
Il est parfaitement indépendant.
C'est faux.
Les cabinets ministériels sont pleins de gens qui sortent du Conseil d'État pour y rentrer.
Valérie Lecâble.
C'est une confusion. C'est une confusion que nous sommes les seuls.
Si vous voulez, on va refermer cette parenthèse-là. Valérie Lecâble.
Non,
il faut qu'on avance, Alain.
Roland, c'est pas parce qu'il y a des membres du Conseil d'État dans des cabinets ministériels que le Conseil d'État n'est pas indépendant. Il y a aussi les normaliens et l'école normale supérieure.
Valérie Lecâble, on va boucler ce débat.
Moi, je voudrais revenir au sujet deux minutes. Je pense qu'en France, on a une situation qui est particulière. C'est qu'on a eu un attentat en janvier dernier chez Charlie Hebdo avec 1,5 million ou je ne sais pas combien de personnes dans la rue. Qui ont manifesté
et l'hypercachère,
contre
on
ça. On a eu l'hypercachère. On a eu après les 130 morts du 13 novembre. Et on ne peut pas traiter ça par-dessus la jambe. Au Conseil d'État ou pas Conseil d'État, j'en sais rien. Et je trouve ça un peu anecdotique par rapport au fond du sujet. On ne peut pas traiter ça par-dessous la jambe. Il y a bientôt l'Euro 2016 qui va se passer en France. Il y a des risques majeurs qui continuent à avoir lieu dans ce pays. Tout le monde sait que on n'est peut-être pas en guerre comme en Syrie ou ailleurs, mais qu'il y a une guerre intérieure et qu'il y a des menaces intérieures.
Personne dit le contraire, Valérie Lecâble. Après, est-ce que l'état d'urgence est la situation ? Est-ce que c'est une situation adaptée ou pas à la situation ?
Les hautes autorités de ce pays ont l'air de dire que c'est la seule façon de protéger les gens. Le 13 novembre, la première chose que les gens ont dit le 13 novembre, c'est « ça aurait pas dû arriver, pourquoi on n'est pas protégé ?» Vous voulez que ça recommence ?
Maintenant,
c'est vrai.
C'est assez logique dans des situations aussi extrêmes de faire confiance aux autorités, aux autorités, au pouvoir public de son pays, tant que ce qu'il propose n'est pas déraisonnable. D'où mon soutien au prolongement de l'état d'urgence.
Allez, dernier sujet dans Refait le Monde, une nouvelle macronade. La vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié. On en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
19h48, on refait le monde ce soir avec Alain Diamel, Guillaume Perrault, Roland Kayrol et Valérie Lecâble. Il a peut-être rasé sa barbe, mais il garde son franc-parler. Ce matin, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, invité de BFM, a expliqué « La vie d'un entrepreneur est souvent bien plus dure que celle d'un salarié. Il peut tout perdre. Lui, il a au moins moins de garanties. » Une nouvelle saillie qui fait polémique à gauche, mais qui contente Pierre Gattaz. Alors cette phrase, boulette ou pas du tout, réalité sur les réseaux sociaux, Benoît.
Ah, il s'est encore fait des copains à gauche, Emmanuel Macron, en l'entendant le député PS Christian Paul tweet « Perte de repères, tellement loin des vies réelles, poujadisme chic, définitivement affligeant, bye bye. » Et si ça ne suffisait pas, son confrère Emmanuel Moral rajoute « Indécent ». Christophe, au contraire, applaudit Macron, ce héros qui bouscule les codes, parle vrai, bref, il a raison. Oui, confirme Spirit, pour le patron, obligations fiscales, sociales, financières, réglementaires, comptables et j'en passe, le salarié n'a que des droits. Alors Samuel Laurent a vérifié pour le site des décodeurs, verdict, chiffre à l'appui, Macron n'a pas vraiment raison. Entrepreneur, on travaille plus, mais on gagne mieux sa vie et on est plus heureux. Summer rappelle une enquête de 2010 Être entrepreneur reste un choix, celui de prendre son indépendance et d'être maître de son destin, ce qui rend plus facile la charge de travail. Ce que vous oubliez, ce sont les à côté, la protection sociale. Une personne malade n'est pas couverte du tout de la même façon s'il est salarié ou entrepreneur. Pareil pour les congés mat. Et je parle pas des indemnités chômage, râle Maurice, qui à son droit rétorque que pour cela, il faut jamais avoir travaillé dans aucune entreprise, car on y subit le rapport de subordination imposé, la pression, le stress, même pour les cadres. Il prépare sa réforme du code du travail, Macron, ça n'est pas un dérapage incontrôlé, conclut-elle.
Guillaume Perrault, voilà, ministre de droite dans un gouvernement de gauche, hein. Ça doit vous satisfaire.
Écoutez, je me retrouve tout à fait dans la formule. Moi, j'ai pas exactement la même formule. Il aurait dit, la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Alors, il faut s'entendre, il faut savoir de quoi on parle. Il est évident que si on a en tête la représentation d'un salarié qui serait un manœuvre sur un chantier, on ne peut pas soutenir que la vie d'un grand patron est plus dure que celle d'un manœuvre sur un chantier. Et aucune personne raisonnable ne peut dire ça. Mais par contre, il est tout à fait exact que si vous considérez les petits entrepreneurs, si vous considérez les 15% de travailleurs indépendants dont on parle rarement, ils ont des responsabilités qui sont beaucoup plus fortes que celles des salariés. Un salarié, même consciencieux, même le plus scrupuleux, quand il a fait 16 heures, il y a un moment, c'est terminé. Un chef d'entreprise, il pense le soir, il en parle autour de la table familiale, il en parle la nuit, il y pense pendant ses vacances, aux URSSAF, il a la pression du client, il a la pression des banques. Je ne dis pas ça pour faire du misérabilisme, je ne dis pas ça pour les faire pleurer, il est exact qu'ils ont choisi cette vie-là. Donc je ne demande pas qu'on pleure sur le sort des entrepreneurs. Mais il est clair que le modèle social français, c'est une logique de protection du salarié qui est considérée comme la partie faible du contrat de travail depuis l'après-guerre et qu'on a oublié tout ce que l'entrepreneur apportait. Et il y a un préjugé toujours hostile à l'industrie, au commerce, au monde de l'entreprise en général.
Moi, globalement, je suis fan d'Emmanuel Macron parce que je trouve que c'est un réformateur. Mais alors là, je trouve qu'il a complètement dérapé parce que je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse du salarié qui vient d'être faite. Je pense qu'un salarié aujourd'hui dans une entreprise, même un salarié qui a un bon job, etc., parce qu'il n'y a pas que des manœuvres sur des chantiers, c'est quand même des gens qui sont maintenant connectés 24 heures sur 24, qui sont sous pression, qui vivent des charrettes en permanence, qui on peut absolument pas, la vie du salarié que vous décrivez est une vie que d'un autre monde. Et, enfin, je sais pas du tout les protections dont vous parlez, parce qu'on peut parler du reste de la loi. Il y a aussi le plafonnement des prud'hommes que moi je trouve scandaleuse personnellement. Je pense que les prud'hommes étaient à peu près la seule arme dont dispose un salarié dans une entreprise privée pour se défendre face à un patron abusif. Sincèrement, je le pense, et je pense que c'est une grosse erreur d'avoir fait ça.
Donc pour vous, c'est un dérapage, ce que ce matin Emmanuel Macron dit.
Oui, total. Alors c'est vrai que les entrepreneurs ont des responsabilités, c'est vrai qu'ils risquent des choses, ils risquent de l'argent, etc. C'est vrai, mais ils ont la contrepartie, qu'ils font ce qu'ils aiment, ça les intéresse, ils ont choisi, etc. Plus qu'une caissière de supermarché, même si parfois ça peut être aussi intéressant. Je trouve ça très réducteur et très mal dit, ce qu'il a dit.
Alain Duhamel.
Je trouve honnêtement que la formulation n'était certainement pas à droite, et même je pense que la formulation...
Si, elle était à droite.
Non. Oui, non, mais c'est même pas...
Non, parce que la droite n'est pas forcément bête.
Je plaisante.
Certes. Non, mais je répondais à ma voisine.
Ah, pardon.
mais avec lui, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'il est celui qui essaye de bousculer les idées reçues, notamment de gauche, il faut bien le dire, et qui essaye de dire en permanence on est dans un monde qui se métamorphose complètement, il faut changer nos formules, il faut changer nos comportements, il faut changer nos propositions, il faut changer notre législation, il faut changer notre réglementation. Et je trouve que ce combat-là, c'est un combat parfaitement justifié. En revanche, la formule qu'il a utilisée je dirais ce qu'il y avait derrière, c'était assez innocent, naïf, maladroit et inadapté, parce que ça
naïf,
donnait...
Vous ne pensez pas que c'est plutôt pensé, non ?
Je pense que pour lui, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a en permanence un pouvoir considérable, des responsabilités considérables, des risques considérables, mais je crois qu'il a toujours vécu dans un climat qui n'est pas très... disons, pas très réaliste. Il a une formation brillante, il a une carrière privée brillante, il a une carrière publique brillante. Je m'en félicite. Et je répète, je trouve qu'il joue un rôle extrêmement utile globalement aujourd'hui. Mais cette formule-là, je ne la défendrai pas, je ne la partage pas. Et je pense que ça révèle non seulement de la maladresse, mais une forme... je dirais d'incompréhension politique.
Donc vous partagez l'avis de Yann Gallu, le député PS, qui dit qu'il est déconnecté de la France.
Un tantinet d'arrogance peut-être.
Il y a de ça, Roland.
Écoutez, moi je ne sais pas pourquoi ça soulève tant d'émotions, parce que je trouve que la phrase d'Emmanuel Macron, c'est juste vrai. Mais je pense que c'est juste vrai si on parle seulement des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont entrepris, fait une entreprise, qui ont mis leurs propres économies, qui sont allés en chercher.
C'est ça qui est l'essentiel.
Qui gèrent leur argent et qui gèrent. Voilà. Là, je m'excuse, j'ai fait ça 25 ans, je peux dire que sûrement aucun salarié de mon entreprise, qui j'espère par ailleurs était bien traité, n'a autant eu d'angoisse, de problèmes permanents que moi et bien sûr mon associé. On manque d'entrepreneurs dans ce pays. On est le seul pays capitaliste dans lequel c'est en vérité l'État qui fabrique les chefs d'entreprise, qui ensuite se cooptent entre eux, se surveillent entre eux, l'un est au conseil d'administration de l'autre, etc. On manque terriblement de véritables entrepreneurs. Et je trouve que ceux-là, il faut les défendre, il faut leur permettre plus encore d'exister que ça n'est le cas dans le capitalisme français.
C'est sur le front, Roland Kerol.
Alors, est-ce qu'il fallait dire la phrase ?
Politiquement, est-ce que le ministre de l'économie de gauche peut dire cette phrase comme ça ?
Dans ce qu'il dit, Macron, ce qui me gêne le plus, mais à vrai dire pas seulement lui, Valls et Hollande aussi, c'est cette idée qu'il faudrait revenir sérieusement sur le taux des indemnités de chômage et leur durée.
Ça, on en a parlé hier, désolé.
Oui, alors, j'y en parle pas. Mais je trouve que, évidemment, pour lui, il y a un lien entre tout ça. Hein. D'un côté...
Et il dit ça le jour, où Manuel Valls va partir à Davos aussi.
Voilà, ça m'inquiète un tout petit peu. Ça devient de la pure flatterie à la volonté du patronat, là, et pas seulement des entrepreneurs, de modifier le code du travail. Et ça me paraît autrement dangereux que ces petites phrases comparant les mérites respectifs des uns et des autres.
Merci à tous les quatre. Merci à Alain Duhamel, à Valérie Lecâble, à Guillaume Perrault et à Roland Kerol.